Radio Capi. Oh, Capi. À la présentation du journal, Gisèle Cage.
Bonjour à tous, les titres du journal. Félix Tshisekedi salue les avantages du corridor de l'Obito. Ce corridor représente une opportunité stratégique pour valoriser nos ressources naturelles, notamment le cuivre et le cobalt. C'est donc une occasion unique d'accéder directement aux marchés mondiaux. Vous l'entendrez dans ce journal. Nous voulons rentrer chez nous en paix et reprendre le chemin de l'école. Des enfants déplacés par la guerre de Deux Kivus ont lancé cet appel devant le représentant des agences, fonds et systèmes des Nations Unies, ainsi que le corps diplomatique accrédité en RDC. C'était hier à Kinshasa. Vérifier l'état d'avancement du projet financé par le Canada dans la province du Kasaï oriental en faveur des femmes vulnérables. C'est l'objectif de la mission de l'ambassadrice du Canada en RDC. Maryse Guilbeault est notre invitée. Sachez d'abord que le nombre de personnes décédées à la suite d'une maladie non encore identifiée dans la zone de santé des Panzi dans le Kwango est passé d'une soixantaine à une centaine en quelques jours. Selon le ministre provincial de la Santé, près de 382 personnes représentant le symptôme de cette maladie sont enregistrées dans 7 des 30 aires de santé que compte cette zone. Docteur Apollinaire Yumba Tiabakwaou annonce l'arrivée de l'équipe d'experts en épidémiologie dépêché par le gouvernement provincial à Panzi pour chercher à déterminer la nature de la maladie et tenter d'assurer la prise en charge. Docteur Apollinaire Yumba, ministre de la Santé du Kwango, a été joint par Irène Mouma Luzolo.
C'est qu'on avait rapporté du 10 au 25, c'était 67. Maintenant, quand l'équipe est descendue, chemin faisant, ils ont trouvé dans un village, l'équipe médicale et la société civile ont rapporté 20 décès. Dans un autre village qui n'était pas compté à la même période, ils ont trouvé 40 décès. Et les 4 qui se sont ajoutés aujourd'hui, ce qui fait 131 décès au jour d'aujourd'hui, voilà. L'équipe est toujours sur le terrain là à Panzi. Concrètement, ils sont en train de faire les prélèvements, de visiter, de faire la sensibilisation pour limiter les mouvements migratoires de la population, pour enseigner les mesures barrières. Ils ont remis un lot de médicaments que l'honorable Jonathan Bialoussoukawata a envoyé. Ils vont remonter les échantillons. Il y a un véhicule qui va quitter Panzi pour Kenge avec les échantillons. Et ces échantillons seront envoyés à l'INRB. Le niveau national, le ministère national nous a confirmé qu'une équipe descend pour aller rejoindre et renforcer l'équipe qui est déjà là pour la prise en charge des malades, pour les traitements des malades. Les cas actifs sont là.
Le corridor de l'Obito, du nom de la ville portuaire de l'Obito, située à quelques 500 kilomètres au sud de Luanda, est au centre de la visite du président américain Joe Biden en Angola. S'il intéresse tant les Américains, les Chinois et les Européens, cette infrastructure ferroviaire stratégique ne l'est pas moins pour les trois pays qu'il relie géographiquement, à savoir l'Angola, la RDC et la Zambie. Présent hier mercredi à l'Obito, le président Biden a rencontré ses homologues de l'Angola, de la Tanzanie, de la Zambie et de la RDC. Prenant la parole à cette occasion, le président Félix Tshisekedi a révélé que ces réseaux ferroviaires qui relient les régions minières de la RDC et de la Zambie au port de l'Obito est conçu pour transporter jusqu'à 20 millions de tonnes de marchandises d'ici 2030. On l'écoute dans cet extrait proposé par Peleki Pelamondo.
Le corridor de l'Obito n'est pas seulement un projet d'infrastructure. C'est aussi un trait d'union entre nos trois pays, la République démocratique du Congo, la Zambie et l'Angola. Il symbolise notre volonté collective à convertir le potentiel de nos pays en une prospérité tangible pour nos populations, en favorisant une interdépendance harmonieuse où nos économies pourront s'épanouir mutuellement. Pour la République démocratique du Congo, le corridor de l'Obito représente une opportunité stratégique pour valoriser nos ressources naturelles, en particulier le cuivre et le cobalt, qui constituent 70% de la demande mondiale dans le cadre de la transition énergétique. Avec une production combinée de 3 millions de tonnes par an entre la République démocratique du Congo et la Zambie, ce projet permettra de réduire significativement les coûts logistiques tout en augmentant nos recettes d'exportation. C'est donc une opportunité unique d'accéder directement aux marchés mondiaux via le port de l'Obito offrant ainsi une alternative stratégique à nos autres corridors d'exportation.
Comme on le voit, le port de Lobito est une aubaine pour l'économie congolaise, notamment dans le cadre des échanges commerciaux. C'est ce que nous explique depuis Lubumbashi notre permanent sur place, Jean Gandou.
La voie ferrée qui mène à ce port à partir de la RDC offre plusieurs avantages aux opérateurs économiques. Généralement, les miniers du Lualaba et du Haut-Katanga évacuent leurs produits par le port de Djouba en Afrique du Sud ou par celui de Dar es Salaam en Tanzanie. Et ce sont plus de 3000 km à parcourir. Le premier avantage s'est défini donc en termes de temps. Pour aller au port de Djouba, les camions mettent 25 jours. En revanche, pour atteindre le port de Lobito, la durée est réduite à 8 jours et la distance est d'environ 1600 km, ce qui constitue un gain considérable. Les miniers du Lualaba et ceux du Haut-Katanga pourront également faire passer leurs importations par ce port. Pour Justice ASBL, une ONG de défense des droits de l'homme, la reprise du trafic et la réhabilitation de cette voie ferrée devraient en principe avoir aussi des effets collatéraux sur les entités directement impactées par l'exploitation de cette voie ferroviaire. Timothée Mbouya.
C'est une très bonne opportunité pour relancer l'économie. La Justice demande que les besoins des communautés soient priorisés dans ce projet. On prenne par exemple en compte le besoin en développement des infrastructures, en développement de l'agriculture ou en développement d'autres besoins sociaux.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Et puis, la reprise du trafic ferroviaire entre Kinshasa et Matadi est vivement saluée par les opérateurs économiques. Selon l'un d'eux, elle va notamment réduire la pression sur la nationale numéro 1, fluidifier les opérations aux différents ports du Congo central et aura un impact sur le prix de certains biens. Dieudonné Kasimbo, opérateur économique et président de l'association des commissionnaires en douane de la RDC, est au micro de Jocelyne Moussaoumpondé.
Nous saluons les efforts que l'ONATRA entreprend là avec la reprise de la voie ferrée. Cette reprise pourra soulager quand même tant soit peu la nationale numéro 1, Kinshasa-Matadi. Je vois là à peu près 20 conteneurs transportés dans 10 wagons. Donc c'est vrai que c'est timide. L'important, c'est qu'ils aient commencé. Là, déjà, là, ça donne un très bon signal. Donc la vie reprend quand même pour les gens. Parce que vous savez que tous ces deux ans qu'on ne faisait plus de mouvements entre Kinshasa-Matadi, les gens, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait sur la voie ferrée? Il y a de ceux-là qui étaient tentés même de commencer à vouloir retirer la voie ferrée et ça avait provoqué même des érosions sur la voie.
Est-ce que vous pensez que cette reprise peut avoir un impact sur les prix des biens?
Au fait, d'abord, le coût de transport que calcule la train est bas par rapport aux moyens de transport que nous payons par route. Ça permettra une certaine fluidité dans les opérations au niveau du port de Matadi.
Sachez aussi que le gouvernement et les banques commerciales ont signé le mardi à Kinshasa le contrat de financement des manques à gagner enregistrés par les pétroliers en RDC. Au cours d'une réunion avec le représentant de 14 banques commerciales partenaires du gouvernement, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, a chargé ces banques de collecter les stocks de sécurité afin de reverser sans retenue conformément à la loi aux sociétés pétrolières. Représentante de l'une des banques collectrices, la Rawbank, Madame Gisèle Mazingo, a rassuré de la bonne coopération entre le gouvernement et les banques commerciales partenaires. Vous pouvez écouter tour à tour Joe Nkoi Lolonga, responsable du secteur public région ouest au sein de l'Equity BCDC Bank, et Gisèle Mazingo dans cet extrait.
Au mois de décembre, nous avons fait un premier tirage pour le paiement de ces pertes et manques à gagner. Et nous avons fait maintenant la deuxième étape, un deuxième tirage afin de solder ces pertes et manques à gagner auprès du secteur pétrolier afin d'éviter la moindre pénurie au sein de la RDC. Aujourd'hui, nous sommes toujours en attente des documents administratifs qui sont auprès du VPM et du ministre des Finances. Une fois que nous aurons réceptionné, nous allons mettre les procédures en place afin de créditer les pétroliers au courant de l'année 2024.
Je dirais que son Excellence, Monsieur le ministre, le vice-premier ministre de l'économie est très clair, ou était très clair lors de la réunion. Le gouvernement peut très bien compter sur le banque pour la collecte de fonds, pour sécuriser la problématique sur le financement des pétroliers. Il n'y a pas de souci, les banques sont là, elles font leur travail pour accompagner le gouvernement.
Au Kasaï central, la direction générale de recettes des GERCAC décide de mettre en place une tarification des taxes et impôts dans le secteur de transport à Kananga. pour les motos privées avant le bouclage de la vignette coûte 10 $, 5 pour le certificat de contrôle technique. La plaque est livrée à 50 $ pendant le bouclage. Donc les assujettis payent le double de cette tarification. Le nouveau DG de la DGRCAC explique que depuis qu'il est à la tête de cette régie, il a constaté qu'il y a certains actes qui n'étaient pas appliqués pour aider la régie à maximiser leurs recettes. Lucien lui chiait sur des propos recueillis par François Kadima.
Et nous sommes à la fin de l'année et je me suis rendu compte que dans les tiroirs, il y avait certaines taxes qui n'étaient pas encore payées. Et il y avait d'autres contribuables qui étaient oubliés et tout était concentré sur une catégorie de contribuables. Et les autres ont fait même une année, deux ans sans pour autant être aussi dans la même danse. C'est comme ça que nous sommes en train de mettre en place certains mécanismes pour pouvoir récupérer tous ceux qui n'ont pas encore y a contribué pour la politique du gouvernement. Il était prévu que tout se fasse simultanément, mais parce que ce sont des partenaires, nous n'avons pas à les contraindre, il faut d'abord négocier, il faut causer pour se mettre d'accord. C'est ainsi que pendant la négociation,
Vous avez négocié avec qui?
Nos partenaires qui sont les détenteurs des véhicules, des motos, quand je parle de motos, je vois les amis motards, organisation, là où tel ou tel motard appartient, on a discuté ensemble et ils nous ont fait voir qu'écoutez, nous souhaitons que vous puissiez commencer d'abord avec les véhicules et pendant que le mouvement des véhicules s'est fait, nous aussi à notre niveau nous nous organisons, nous nous sensibilisons.
Des enfants déplacés de guerre de deux Kivu partagent leurs souffrances devant des représentants, des agences, fonds et systèmes des Nations Unies et le corps diplomatique accrédité en RDC. C'était hier mercredi à Kinshasa au cours d'une rencontre organisée par le Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit. Ces enfants ont exposé les difficultés qu'ils ont dures dans les sites des déplacés, principalement ceux de Mugunga et Don Bosco. Leur plus grand souhait reste de retourner chez eux. Jeff Opela.
Ils viennent des territoires des Nirangongo, des Rutshuru et Masisi. Ils vivent, ou plutôt survivent, dans les sites de Mugunga et Don Bosco. Paix, rien que la paix, nous voulons rentrer chez nous en paix et reprendre les chemins de l'école. C'est la phrase remplie d'amertume, c'est le plaidoyer qu'ils adressent à leur hôte. Patrick Fata Mapungu, directeur général de Fonarev, plus de 100 000 victimes ont été identifiées à cet effet. Il plaide pour un accompagnement et une aide d'urgence pour essayer de faire face à la grave crise humanitaire qui sévit dans ces esprits.
Je peux déjà vous dire qu'à ce jour, nous avons identifié un peu plus de 100 000 victimes dans ces deux camps-là. Après, il faut préparer les programmes de réparation, de réinsertion de toutes ces familles et de tous ces enfants, leur scolarité, tout ce qui va avec. Et ça, évidemment, avec les moyens que nous avons, tout seul, nous n'y arriverons pas, mais ensemble, il y a certainement moyen de faire mieux.
En réaction, l'UNICEF rappelle le principe de la protection de leurs identités et promet un accompagnement. Docteur Myriam Silla, représentante adjointe de l'UNICEF en RDC.
En termes d'appui, nous apportons de l'appui aux enfants en termes de protection, mais aussi en termes d'accès à l'eau dans les camps de réfugiés, en termes d'accès à l'éducation. Et un principe fondamental aussi que je voudrais rappeler, la protection de leur identité.
Signalons que ces enfants ont été reçus la veille par le président de la République.
Sud Kivu, une mission conjointe gouvernement, MONUSCO, agence de l'ONU, s'effectue à Bukavu depuis hier mercredi. La mission consiste à évaluer l'état actuel des sites clés que la MONUSCO avait légués au gouvernement avant son désengagement dans la province du Sud Kivu depuis maintenant 6 mois. La délégation a visité 3 bases militaires dans la partie nord de la ville. Elle a notamment reçu les explications sur la gestion du charroi automobile et d'autres biens, meubles, immeubles hérités de la mission onusienne. La suite de cette visite avec Jean Kassami.
La délégation a visité 3 principales bases qui autrefois étaient utilisées par les contingents uruguayens, pakistanais et chinois, respectivement à Kavumu et Amsar. Ces 3 sites se trouvent actuellement sous la gestion des FRDC, raison pour laquelle le commandant adjoint de la 33e région militaire s'est chargé de fournir les explications sur la gestion de ces sites, du matériel, automobile et autres. Jacques Ilunga, général.
Nous le faisons avec les moyens de bord. Il n'y a rien de perdu. Tout est bien conservé. Et je crois qu'avec beaucoup plus d'autres accompagnements, ça sera très, très bien fait.
Le délégué général du gouvernement en charge du secrétariat technique qui s'occupe du désengagement de la MONUSCO apprécie la manière dont les bases militaires léguées aux forces armées de la RDC sont gérées. Noël Mbemba.
Le 3 sites, c'est un échantillon que nous avons prélevé. Nous avons remarqué que les militaires qui sont ici ont gardé du matériel et surtout les sites en bon état et surtout qu'ils utilisent. C'est pas de sites abandonnés. Félicitations à nos vaillants militaires qui tiennent ces sites-là.
La mission conjointe se poursuit au Sud Kivu durant 4 jours. Jean Kassami, Radio Okapi, Sud Kivu.
Actualité internationale.
Vous l'avez compris, c'est l'actualité internationale. Le gouvernement français est tombé après l'éviction du Premier ministre Michel Barnier à l'issue d'un vote de défiance. Les députés ont voté massivement en faveur de la motion contre lui, 3 mois seulement après sa nomination par le président Emmanuel Macron. Les partis d'opposition avaient déposé la motion après que l'ancien négociateur du Brexit eût utilisé de manière controversée des pouvoirs spéciaux pour faire adopter son budget sans vote. C'est la première fois depuis 1962 qu'un gouvernement s'effondre à la suite d'un vote de défiance.
L'invité.
Radio Okapi a rencontré en Bujimayi au Kasaï oriental. Maryse Guilbeault, ambassadrice du Canada en RDC, est allée s'enquérir de l'état d'avancement du projet financé par son pays dans cette province en faveur des femmes vulnérables. C'est dans le cadre de l'aide au développement. L'ambassadrice du Canada en RDC est l'invitée de ce journal. Elle s'entretient avec Esther Ndalafina.
Bonjour Madame Maryse Guilbeault. Aujourd'hui, vous vous retrouvez en Bujimayi, au Kasaï oriental. Quel est le but de votre mission?
Alors bonjour, oui, effectivement, je suis l'ambassadrice du Canada. Alors je suis ici au Kasaï oriental pour la première fois depuis mon arrivée en RDC. Et l'objectif principal est de visiter un petit projet que le Canada finance ici à Mbujimayi avec un groupe de femmes vulnérables, donc des jeunes filles, des mères, chefs de ménage qui ont dû être déplacées ici par la force. Alors aujourd'hui, je les rencontre, je veux voir quel est l'impact du projet. Je vais leur remettre de l'équipement qui est nécessaire pour eux. Et voilà, c'est l'objectif principal. Et aussi, évidemment, je veux connaître la région. Je veux connaître l'ensemble de la RDC, l'ambition de visiter toutes les provinces de RDC pendant ma mission ici. Je suis pas certaine que je vais l'accomplir, mais au moins ici, le Kasaï oriental, c'est ma 10e province que je visite.
Quelle est la nature des projets que vous allez appuyer?
Mais en général, les projets qu'on appuie s'enlignent avec notre politique féministe d'aide au développement. Donc, on s'est doté de cette politique qui a un accent sur les femmes. On met l'emphase sur les femmes, les filles, autant comme bénéficiaires que comme exécutrices des projets. C'est à la fois c'est de l'empouvoirment des femmes pour les amener à être plus autonomes, que ce soit l'entrepreneuriat, par exemple. Et c'est le cas aujourd'hui, ce petit projet qu'on finance aide les femmes à apprendre un métier, que ce soit culinaire ou couture ou autre. Mais l'objectif, c'est qu'elles puissent subvenir à leurs propres besoins, à elles et à leur famille, à leurs enfants.
Et par rapport à l'entrepreneuriat, y a-t-il déjà des équipements que vous comptez remettre aux femmes aujourd'hui là?
Ça peut varier. Dans un projet récent, on avait remis, par exemple, pour les femmes qui voulaient apprendre la coiffure. Donc, c'est un groupe qu'on appuyait, qui donnait de la formation aux femmes, les MPP, l'Institut national de préparation professionnelle. Chez les femmes, par exemple, qui voulaient apprendre la couture, on leur remettait une forme de tête, un modèle sur lequel elles peuvent pratiquer. Donc, un exemple, ou une autre femme qui voulait apprendre l'électricité, on lui a remis des outils, un coffre à outils, avec des outils de base qui sont nécessaires pour la manipulation de tout ce qui est reliés au système électrique.
Combien de femmes et de jeunes filles sont concernées par le projet appuyé par le Canada ici en Bujimayi au Kasaï oriental?
Dans le cas d'aujourd'hui, on parle de 70 femmes qui vont bénéficier directement de la formation qui est offerte.
Y a-t-il des ONG avec lesquelles vous travaillez ici?
Oui, l'ONG principale ici à Bujimayi s'appelle IFEM, donc c'est Initiative Femmes Préparation.
Et dans le cadre de l'entrepreneuriat, vous remettez les équipements aujourd'hui, vous les appuyez, et comment se fera le suivi?
Ben, éventuellement, on espère qu'elles vont graduer, recevoir un diplôme et pouvoir partir leur propre petite entreprise, que ce soit un petit restaurant ou un atelier de couture ou autre. Et évidemment, on fait un suivi serré sur tous les projets. Lorsque le Canada investit dans un projet, on veut s'assurer que l'argent est vraiment destiné à l'objectif qu'on s'est fixé, qui est en général aider les groupes vulnérables. Dans le cas présent, ce sont des jeunes femmes, des jeunes filles, mais ailleurs, ça peut être des groupes d'enfants, par exemple. On va toujours s'assurer que les bénéficiaires reçoivent ce pourquoi on a mis un projet en place.
Une personne qui a déjà reçu les financements, l'enveloppe, la personne qui tombe en faillite, y a-t-il des mesures pour relever la situation?
L'objectif d'un petit projet d'ambassade, que ce soit la coopération canadienne ou d'autres pays amis qui font la même chose, c'est pas de se substituer à l'État. Nous, ce qu'on fait, c'est ponctuel. C'est à un moment précis dans le temps pour un groupe précis qu'on a identifié, qu'on a jugé apte à recevoir les fonds. On a jugé que l'aide qu'on apporterait contribuerait à ce que ces femmes-là sortent d'un pétrin momentané. Elles ont été déplacées par la force. Elles sont ici, donc c'est pour les relancer. Par la suite, c'est au gouvernement à prendre la relève. C'est au gouvernement à s'assurer que souvent ce que nous on fait comme coopérants, si ça marche et ça marche bien et ça apporte la prospérité, ça apporte le développement, ça apporte la sécurité et la paix, ben on s'attend évidemment à ce que le gouvernement prenne la relève et continue dans cette même lignée.
Madame Maryse Guilbeault, je vous remercie.
Merci à vous et bonne chance à toutes les femmes, à toutes les mamans.
Maryse Guilbeault, ambassadrice du Canada en RDC, sont entretenues avec Esther Ndalafina. Merci d'avoir suivi ce journal sur Radio Capi. Je vous retrouve à 8h pour une autre session d'information.